Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, métalleux, métallards, métallaines, ces jours-ci. Bonjour et bienvenue, tu écoutes de bons conseils, vous écoutez l'onde curieuse de ce mardi 9 décembre, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on joue avec le feu, avec le bien nommé sculpteur sur bois et métal Jean-Paul Brandt, dont le nom signifie, pour les non-germanophones, le feu. L'homme-feu, donc rencontré cet été dans son atelier du quartier Saint-Pierre à Aubenas, nous parle de son métier et de sa passion, avec chaleur, bien sûr. Une entrevue à retrouver comme d'hab après l'agenda et...
Bonjour.
Aujourd'hui, dans cet agenda, on se pose des questions. D'abord, où serez-vous demain ? Alors, c'est pas une question à prendre à la légère. Emmanuel Roy, réalisateur, propose une réponse ce soir à 19h au cinéma de Lussas avec son film documentaire « Je ne sais pas où vous serez demain ». Cette réponse est en réalité celle d'une médecin, Rime, qui exerce au centre de rétention administrative de Marseille, à des hommes dont la vie est suspendue et dont personne ne peut prédire où ils seront envoyés le lendemain. Le documentaire suit cette médecin qui tente malgré tout de tenir une ligne de soins, de respect et d'écoute. Vous pourrez rencontrer le réalisateur Emmanuel Roy, qui est aussi le responsable de l'école documentaire d'Ardèche Images à Lussas. Et puis la projection a lieu dans le cadre du programme Par les villages de Terre de Doc. Et la séance propose aussi, juste avant, des archives amateurs et le court-métrage Machuca, follement aimé de Anim Mlem, étudiant à l'école du documentaire de Lussas, qui a été tourné, donc ce documentaire, à Villeneuve-d'Aubert. L'entrée se fait à prix libre, et puis bien sûr, il y a un petit pot pour discuter de tout ça après. Autre question, que lire aux enfants et quel livre choisir ? Réponse demain à la cantine Pop à Aubenas, où la Bibli, les lins, l'une, les lynx propose avec l'école des parents et des éducateurs et éducatrices une sélection d'albums et de livres jeunesse à partager avec sa nièce, son petit-fils ou l'enfant d'un ami. Ça s'appelle « Grenouille, tétard et tartine ». Il y a donc un goûter prévu. C'est demain, mercredi, de 16h à 18h à la cantine populaire à Aubenas. Un petit rappel aussi, il y a deux émissions pour les enfants sur Fréquence 7 le mercredi matin. C'est en lisant qu'on devient liseron, ce sont des lectures d'albums par les bénévoles de Lire et Faire Lire, et l'émission musicale, mais pas que, L'ours qui pète et qui rote, tout à fait déconseillée aux parents qui pourraient être choqués par les propos tenus. L'émission est à écouter à 11h30 le mercredi matin, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Et dernière question, avec quel animal Fréquence 7 partage sa fréquence ? A. Réponse, avec la nouvelle création de la Lupo Compagnie en sortie de résidence au Met, le lieu dédié à la marionnette du Tay, jeudi à 18h30. C'est donc un spectacle de marionnettes, les marionnettes à tringles notamment, spectacle d'ombre et aussi de bourrinku. C'est un type de théâtre japonais avec des marionnettes de très grande taille. C'est à partir de 9 ans. Le pitch, à la fin des années 80, des militaires américains font une découverte singulière. Lors d'écoute sur leur réseau d'hydrophones, dont le dessin initial est de détecter d'éventuels sous-marins soviétiques, un étrange chant d'une fréquence de 52 Hz, 5 plus 2, voilà, retentit. Mais quel animal chante à cette fréquence ? Le trajet migratoire emprunté ne correspond à aucun groupe d'animaux connu. C'est ainsi que la baleine 52, baptisée selon la fréquence de son chant, fut découverte. Le spectacle « Le chant bienfaisant des géantes », la découverte de la baleine 52, est à découvrir jeudi à 18h30 au Met du Tay. L'entrée est libre, les réservations se font directement auprès du Met. Voilà, c'est la fin de cet agenda, on prend la tangente avec une première pause musicale, fruit d'un malentendu. Thank you. On commence avec El Boubamara Passa de Chat Noir, Chat Blanc, c'était en 98. Un choix qui n'est pas celui de notre invité, puisqu'il y a eu malentendu. Notre invité est Jean-Paul Brand, sculpteur sur bois, métal et musique. Alors d'habitude, j'aurais dit pourquoi ce choix. Alors pourquoi ce n'est pas ton choix ?
Dans la musique des manouches de l'Est, ce que j'aime, c'est parfois, c'est un peu comme du blues, quoi. C'est une musique très, très, très suave et avec des émotions, c'est très, très profond. Et là où ça rejoint un peu le blues, ça parle de misère, quoi. Et c'est très, très profond dans les émotions. Mmh. Et là, c'est une musique qui est joyeuse, mais qui me plaît aussi, qui est sympa, parce que voilà, il y a quand même la joie de vivre, quand même, parce que malgré que ce soit dur, malgré que ce soit difficile, eh ben on est toujours là, quoi. On est toujours debout et on avance, quoi, qu'il arrive. Et donc il y a des moments de joie, il y a des moments de bonheur, quand même, malgré tout, quoi.
Mmh. Il y a un côté sautillant et un peu bordélique aussi, qui n'est voilà. Pas forcément ta cam.
Ben, si, bordélique, c'est dans le tout feu, tout flamme, quoi. On y va et on voit bien comment ça se passe. Et parfois, voilà, ça se passe merveilleusement. Et parfois, non, parfois, on se ramasse méchamment. Mais bon, j'aime bien aussi, c'est marrant. Ça m'a surpris, mais c'est sympa.
Tout feu, tout flamme. Alors, on va en parler, puisque le point de départ ou le point de fusion entre l'homme et l'art et l'homme et la matière, c'est le feu, puisque tu travailles le métal et que tu t'appelles Brand. Brand, ça veut dire feu en allemand. Tu es l'homme feu. Hier, je suis allée te voir dans ton atelier, quartier Saint-Pierre à Aubenas, et on entend le feu et l'homme Brand qui parle un peu du feu tout en forgeant. C'est maintenant.
Après, on peut aller plus loin. On peut aller jusqu'à jaune très très clair et après blanc. Le blanc, on s'en sert pour souder. Le blanc, c'est pas terrible dans l'acier parce que même déjà la température là, c'est déjà élevé parce que tu peux dénaturer l'acier en fait. Voilà, là j'ai une température qui est idéale. Et là l'acier c'est facile à travailler, c'est comme de la pâte à modeler, c'est plus dur que de la pâte à modeler. Ça permet de faire les choses entièrement à la main, sans utiliser de machine. Bon, après, je peux continuer l'affiner et je peux l'étirer. Mais là, c'est plus assez chaud, il faudrait que je réchauffe. Mmh. Mais il ne faut pas que je m'amuse à chauffer 15 fois très chaud, parce qu'après, je peux dénaturer. Après, ça marchera, ce sera toujours solide, mais quand même, l'acier est hyper en qualité. Il y a des forgerons allemands qui disaient que... Un maître forgeron qui disait que l'acier... il ne faut pas aller plus haut que le rouge vif, quoi. Après, c'est pas bon.
Alors, on a entendu un petit peu, tu as une relation passionnée avec le feu. Quand on s'est vu, tu parlais presque de quelque chose de mystique. D'abord, comment tu es venu à la forge, à ce travail justement avec le feu, alors qu'à l'origine, tu viens plutôt de la sculpture sur bois, hein, tu as travaillé la restauration de meubles anciens.
Oui, alors j'ai commencé la forge, enfin j'ai découvert la forge en fait avec des compagnons à Genève, des compagnons tailleurs de pierre, dans un atelier de restauration de sculpture sur pierre. Un atelier qui avait pignon sur rue avec un grand, grand maître. J'ai eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer ce maître parce que j'évoluais dans un milieu où il y avait beaucoup de sculpteurs, beaucoup d'artistes et on m'a proposé de si je voulais voir comment ça se taille la pierre, comment on fait, et la taille fine je parle, hein, pas la taille, pas la maçonnerie pierre. Et d'aller voir ce maître et ses compagnons. Donc j'y étais et je leur ai demandé si c'était possible de voir avec eux, voir comment on taille la pierre, avec quel outil, et apprendre un peu les rudiments de la taille. Voilà. Et donc j'ai été dans cet atelier-là. Ils ont accepté, j'étais dans cet atelier-là. Et on m'a appris les rudiments de la taille, les outils, comment ça se faisait, comment on faisait des moulures en pierre, dans du marbre, etc. Et il y a un moment, il a fallu forger des outils, parce qu'ils forgeaient leurs propres outils. Et c'est là que j'ai découvert la forge. Et là, pour moi, ça a été un peu une révélation, quoi. Ça, c'était autre chose. Moi, je travaillais le bois exclusivement. Waouh, là, j'ai découvert quelque chose. La forge, et cette manière, parce qu'ils forgeaient de manière vraiment traditionnelle, et c'était concret, quoi. C'était pour fabriquer leurs outils, et des outils assez fins, quand même. Et les gars maîtrisaient vraiment, vraiment, vraiment ça. Et waouh, là, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose, de pouvoir fabriquer ces outils, forger ces outils, la relation aussi avec le feu, l'acier, qui était assez complémentaire dans la taille de pierre. Et là, je me suis dit, ça et ça, il faut que je vois ça. Et donc, je suis rentré chez moi, j'ai directement récupéré une enclume, et j'ai bâti une première forge, et j'ai commencé à forger à ce moment-là. Parallèlement, pour me fabriquer des outils, et puis pour faire diverses choses dans ce que je faisais, moi, en bois, quoi. Mmh. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ça.
Et pourquoi tu ne t'es pas arrêté là, c'est-à-dire dans ce geste de fabriquer tes propres outils, donc de gagner un peu en autonomie, pourquoi du coup tu en es venu à la création même en fer et en métal ?
Après, bon, j'ai continué à travailler le bois et parallèlement, je forgeais un peu. Je forgeais des outils, je forgeais aussi des étriers métalliques, pour, par exemple pour la charpente, des pièces métalliques dont j'avais besoin. Et j'ai laissé un peu tomber la forge. Voilà, j'ai pas été plus loin là-dedans. Et après, j'ai commencé à travailler le métal. C'est par hasard, en fait, j'ai rencontré un gars au Bénin qui vendait un poste à souder. Et moi, c'est vrai que dans mon travail de restauration de meubles, j'avais souvent des soudures à faire pour des choses anciennes. Et c'était difficile de trouver quelqu'un qui le fasse quand j'en avais besoin et sans que ce soit compliqué. Et je me suis décidé à lui acheter son poste à souder et je suis rentré dans mon atelier et j'ai commencé déjà par réparer la serrure de ma porte et à souder divers trucs et commencer à souder, moi, pour mon travail d'ébéniste, quoi. Mmh. Et après, j'ai commencé à fabriquer des choses pour la maison, pour mes filles, des lampes, une lampe notamment, et qui a eu du succès. Donc j'en ai fait une deuxième, une troisième, et après, j'ai commencé à faire des meubles en bois et métal. Et divers agencements, et j'ai commencé à vendre mes réalisations. Et progressivement, j'ai commencé à faire de la sculpture, de sculpter des personnages, créer de la déco pure en métal, et basculer complètement dans le métal. J'ai commencé le métal en 2015, où là j'ai complètement basculé. C'est-à-dire que j'ai arrêté mon activité d'ébéniste, de restauration de meubles anciens. Et j'ai commencé à acheter du matériel pour le métal et j'ai basculé. Mmh. Voilà. Et progressivement, jusqu'à faire de la sculpture, voilà, des pièces même contemporaines, des personnages. Voilà.
Mais des personnages, alors ce qui est intéressant, on l'a entendu, c'est la nécessité presque qui t'a conduit d'abord au métal, le besoin de faire tes propres outils. Mais les outils n'ont pas disparu parce que, quand j'ai visité ton atelier, donc quartier Saint-Pierre à Aubenas, il y avait des sculptures à partir d'outils. Tu sublimes les outils.
On peut le dire en quelque sorte. Oui, parce que j'ai commencé à travailler le métal qu'avec de la récupération, en fait. J'ai commencé à récupérer beaucoup de choses, beaucoup d'outils anciens, beaucoup de pièces métalliques que je trouvais sympas, à gauche et à droite. Et j'ai créé avec ça. Et en récupérant certains outils anciens, qui étaient de super qualité, je voulais en faire quelque chose. Et j'ai commencé à les intégrer dans des pièces et après faire carrément des sculptures qu'avec des outils anciens. Où je ne fais pas de montage, parce qu'il y a deux façons de faire dans la récup, en fait. Je ne fais pas de montage, je me sers des outils comme matière, mais parfois j'utilise les formes déjà existantes dans les pièces, dans les outils. Voilà, c'est la ligne un peu parfois directrice dans la création.
Tu parles de récup, ton atelier il s'appelle le grand bricolage. Il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté d'autonomie complète. Ce qui marque aussi quand on entre dans ton atelier, c'est l'économie de moyens avec laquelle tu travailles et la volonté de tout faire et d'être autonome le plus possible. T'as créé ta forge, qu'on a entendu, là on a entendu tout à l'heure le bruit qu'elle faisait avec la ventilation. C'est ça un peu pour toi, te départir de toute surproduction, de tout superflu, et ne faire qu'avec de la récup, et toi-même être complètement autonome ?
Oui, pour moi c'est très très important. Déjà pour un aspect économique, et pour garder la liberté en fait. Parce que je trouve qu'il y a tellement de choses déjà, il y a tellement de choses dehors déjà, on peut tellement récupérer de choses, et des choses de super qualité, et l'autonomie, parce que c'est plus facile, c'est plus rapide pour moi. Je fais en sorte de faire des choses que je puisse faire moi déjà tout seul, et parce que ça me garantit déjà la liberté et la rapidité aussi d'exécution. Quand je vais faire quelque chose, voilà, si je peux, avec l'expérience, la matière que je récupère, je peux quasiment tout faire en fait. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, j'ai pas de limite quelque part. Je suis pas trop limité, quoi, techniquement. Mais je fais en sorte que de pas me lancer dans des choses que je ne puisse pas faire moi déjà tout seul. Et c'est important aussi parce que je trouve que on est quand même dans une surconsommation de moyens, dans une surconsommation de matériaux, et de limiter un peu la casse. De limiter un peu ça. Parce que parfois, comme j'ai dit, des fois, ça sert à rien d'en faire plus, ça sert à rien, quoi. Pour l'usage qu'on en a, ça sert pas à grand-chose, en fait. Et ça permet d'aller directement au but, quelque part.
Mais au but, quel est-il ? Parce que dans la création, quel est le but de la création ? Est-ce que c'est pas la création elle-même ? Enfin...
Si, c'est la... Mais maintenant, dans la création, moi, je cherche l'expression, en fait. L'expression, c'est plus l'expression, certains, ce sera la technique. Ce sera de sublimer, par exemple, de maîtriser une technique et de la sublimer pour en faire quelque chose, mais où on montre qu'on maîtrise une technique, et une technique très compliquée, avec des moyens très très compliqués. Et moi, je cherche l'expression, d'aller dans l'émotion, dans l'expression directe des émotions, du ressenti. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de matériel. Il n'y a pas besoin. C'est dans les lignes, c'est dans l'histoire que ça peut raconter tout de suite, quoi. Mmh.
Voilà. Tu disais tout à l'heure que le fait d'être autonome, tu n'as pas de limite. Alors, j'ai deux questions. Dans la création, c'est quand même pas mal d'avoir des contraintes, ce qui permet justement de te lancer dans la création. Sinon, il n'y a pas de limite, c'est illimité. Qu'est-ce qu'on fait ? Où on commence ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, ce sera sur le fait que tu rencontres quand même d'autres personnes, à certains moments, qui permettent aussi peut-être d'alimenter ton univers, de te nourrir. T'es pas un ermite seul tout le temps dans ton atelier. Alors, la première question sur les contraintes, est-ce que des contraintes sont pas un peu nécessaires ?
C'est important d'avoir un certain cadre quand même, de cadrer aussi cadrer, qu'il y ait une direction. Et ça, c'est parce que sinon c'est trop ouvert. C'est vraiment trop ouvert et on peut s'y perdre en fait. Et tourner en rond pour finir, quoi.
Et comment tu fais pour avoir des contraintes alors ?
En fonction de ce que je vis, de ce que je vois, ça me donne une direction. Après, les contraintes, moi j'ai des contraintes techniques, parce qu'il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux pas faire. Je me lance pas dans des projets impossibles. Moi, il faut que ce soit quand même réalisable, et je reste assez raisonnable. Hein, au niveau des dimensions, au niveau des moyens employés, et dans ce que je veux faire. Et après, la direction... ce qui me guide en fait, j'essaye de cadrer quand même en fonction par exemple de ce que je veux faire ou de ce qu'on me demande de faire parfois, parce qu'on me demande de faire des choses, je m'inspire aussi et je demande à ce qu'on me dise par exemple, j'aime bien ci ou j'aime bien ça, et moi ça me donne une direction. Et pour moi c'est beaucoup plus facile parce que quand je parle dans la création pure, par exemple si je veux faire de la sculpture, j'ai envie de travailler parce que j'adore travailler le métal, j'adore forger, j'adore souder, et là tout est possible. Tout est possible, en faisant quelque chose, ça peut me donner une idée qui pourrait me faire rebondir sur une autre chose, et là je peux me perdre. Et donc je cadre quand même, je dessine, Et après, je m'y tiens. J'essaye de m'y tenir. Après, je laisse parfois une part d'improvisation. Et des fois, je pars dans l'improvisation pure. Mais ça, ce sont sur des pièces qui seront... Dans le temps, c'est très court. Ça va durer 1, 2, 3 jours. Mais je me donne des limites. Il y a un moment, je dis, ça, c'est fini. Voilà, c'est fini, si j'ai fait ça. Une fois, j'ai fait une série de guitares en métal. Voilà, j'étais... Parce que j'avais une super guitare de jazz. Tout le monde trouvait magnifique. Et du coup, j'ai pris cette guitare et j'en ai fait 4. Je l'ai décliné. 4 styles de guitare à travers... Enfin, d'après ce modèle-là de guitare. Voilà, j'ai fait une série. Je me suis dit, moi, j'en fais 4 comme ça, quoi. Et ça me donnait une direction, en fait. Mmh. Et dans les commandes, par exemple, je demande à mes clients... De me donner des photos, de m'envoyer des photos de ce qui leur plaît, de ce qu'ils trouvent joli, et moi ça me donne des directions, ça me donne une indication, voilà, comme ça c'est plus facile, parce que sinon c'est trop grand. Mmh. Et après, la rencontre avec les autres artistes, j'ai rencontré beaucoup d'artistes dans ce que je fais un peu, dans l'art récup, hein, des femmes, des hommes de tous les âges. Et là, ça permet de voir aussi ce qui se fait, et de voir ce qui inspire les autres. Et ça, c'est énorme, ça. Mais, et après, on se rend compte que... Je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul, en fait. Malgré que je travaille seul et que je fasse à ma manière, à moi, je n'étais pas tout seul à faire comme ça. Et quelque part, on se rejoignait un peu au niveau, par exemple, de la technique, du matériel. Et dans ce qu'on faisait aussi, cette façon de faire, l'état d'esprit aussi. Et ça, c'était super. Et là, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la rencontre avec les autres.
Rencontre que tu fais aussi pas mal dans des festivals, notamment dans des événements, justement.
Voilà, j'ai participé à pas mal de festivals de sculpteurs art récup et des concours. Et là, j'en ai pris plein. Parce que là, j'ai vu beaucoup de choses. Là, j'ai vu beaucoup de choses. Des gens très, très forts faire des choses incroyables. Et c'était super, ça.
Ce qui t'anime aussi, j'ai cru comprendre, c'était les performances. C'est-à-dire créer sur place avec du public à un moment donné.
Voilà. J'ai fait beaucoup de performances et j'en fais encore, j'en ferai encore. Ça, c'est super. Avec une limite de temps, justement, la contrainte c'est le temps et le matériau disponible sur place, c'est-à-dire que là c'est de l'improvisation totale. Soit on part avec un projet dans la tête en se disant voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, et ou soit on se laisse aller complet et on nous amène de l'acier, de la ferraille, des bennes de ferraille entières, on amène notre propre matériel, on amène ce qu'on veut et on fait ce qu'on veut, quoi. Mais en 48 heures, il faut faire quelque chose de concret, cohérent et si possible commercialisable en public, devant un public, toutes sortes de publics, dans toutes sortes de conditions. Ça, c'est extraordinaire.
Est-ce que ça se rapproche pas aussi de ton activité de musicien, c'est-à-dire créer en public, même si la création a eu lieu avant, mais il y a l'interprétation en public?
Oui. Au début, je faisais... Au début, les premiers festivals de sculpteurs, bon, je faisais des sculptures en public avec ce qu'on m'amenait comme ferraille et ce qu'on nous amenait comme ferraille. On était plusieurs, 25, 30 sculpteurs, sculptrices. Et après, j'ai commencé à faire de la performance, c'est-à-dire... Pour moi, la performance, c'est de dire, voilà, avec ce qu'il y a là, je vais faire ça. Et je le fais direct. Mais je dis ce que je vais faire avant. Ou par exemple, je fais un personnage, Wonder Nature. Et avec ce qu'il y aura, quoi qu'il se passe, je ferai ce personnage, Wonder Nature. Ça, c'est une performance. Et le faire dans toutes les conditions possibles, à 40 degrés à l'ombre, sous la pluie, avec très peu de matériel. Voilà. Et après, j'ai fait des shows aussi, des shows de performeurs, où là, j'allais costumer, je faisais un décor, et je jouais avec ça. Je faisais un show, découper des meubles métalliques à la hache, dessiner à la bombe, et commencer à faire des personnages comme ça, dans un délire avec sur fond de musique plein pot, et dans un délire bien, bien rock'n'roll, quoi. Et voilà, j'ai fini cette période, ça a duré plusieurs années, par des shows, carrément. Je faisais des shows. Et ça, c'était le délire.
Et plus maintenant? T'as plus envie de ça?
Ben, là, j'ai calmé le jeu pendant ces deux dernières années, et je compte recommencer l'année prochaine, mais dans un autre contexte, dans un contexte très, très rock'n'roll, c'est-à-dire faire du show vraiment rock'n'roll, quoi. Allier vraiment, voilà, la musique rock'n'roll, moi j'aime bien le rock'n'roll, et le show de performeur métal, en faisant des choses assez folles, quoi, avec costumes, décors de scène, voilà.
Et ça, c'est aussi c'est ce qui se perçoit dans tes sculptures, parce que bon, l'interview se termine bientôt, mais tu sculptes pas mal des guitares. Tu disais des guitares de jazz, ça peut être aussi des guitares de rock électrique, des masques, des personnages, des motos. Il y a quand même tout un univers de rockers.
Oui, ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup et j'aime ça. J'aime cet univers-là parce que ça correspond bien aussi au métal, quoi. C'est très, très rentre-dedans. Et il y a quand même, le métal, c'est très dur, c'est agressif quand même, c'est chaud. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien cet univers-là.
Merci beaucoup, Jean-Paul.
Je vous en prie, avec plaisir.
À bientôt.
Oui.
Et oui, à bientôt, Jean-Paul, peut-être pour des stages et ateliers que tu vas mener. On donne rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent sur ton site internet, où tu présenteras sans doute ton actualité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Sylvain. Polarisation. Merci à vous, auditrices, auditeurs, de nous suivre toujours plus nombreux, par millions, par centaines de millions. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisque à 15h, eh bien, c'est le Telex. Vous le savez, c'est le moyen le plus sûr et le moins cher d'annoncer vos événements. Vous avez 45 secondes pour laisser un message sur notre répondeur. Et toutes vos annonces passent à 15h, donc, puisque je viens de vous le dire, mais aussi à 9h. Et pour ça, un seul numéro de téléphone, 04 75 93 30 25. À 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Polémix et la voix off, qui est cette fois-ci à Poitiers. Procès de 4 militants anti-bassines. Est-ce illégal de manifester contre une chose illégale? Et bien sûr, pour terminer cette émission sur le métal, quoi de mieux que de vous annoncer la mythique émission de 21h, Metal Zone. Ciao!